tradição religiosa sont arrivés à considérer le sectarisme comme étant un état de choses naturelles et même acceptables. Beaucoup de gens semblent même penser qu'il est normal de voir tous ces groupements porter des noms différents, croire à des doctrines variées et pratiquer des choses très différentes les unes des autres. Ces gens vont parfois jusqu'à affirmer qu'il est même bon d'avoir toutes ces églises, car cela permet de tout d'abord devenir chrétien, pour ensuite chercher une assemblée qui corresponde à sa manière de voir et de penser. Cette attitude, qui est assez courante, répétons-le, s'est ancrée dans les mœurs de plus en plus profondément pour finalement faire partie intégrante de l'existence moderne et de son mode de vie religieuse. Les noms, les croyances et les doctrines des principales de ces églises sont même très bien connues du grand public. Posons-nous une fois de plus la question. Toutes ces sectes sont-elles utiles et nécessaires à la cause du Seigneur Jésus? On dépense de par le vaste monde des sommes considérables d'argent, de temps et d'efforts pour les soutenir. Mais le programme de leur réalisation glorifie-t-il Dieu dans ce qu'il représente de contradictions et d'idées opposées? L'apôtre Paul lance un appel qui nous parvient au travers des siècles. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? C'est presque un cri de douleur. Et on le sent déchiré à l'idée que les chrétiens de ce temps-là se réclamaient déjà de l'un ou de l'autre des apôtres, comme si chacun d'eux avait fondé une secte. Rien n'était pourtant moins vrai. Et en constatant la merveilleuse unité de pensée des Écrits apostoliques, on se rend compte que chacun d'eux poussait même très loin son entière fidélité aux enseignements du Maître. L'état de fractionnement du christianisme actuel est hautement condamnable. Il est exactement l'opposé de ce que le Christ souhaitait voir se réaliser autour de son sacrifice. Quelques heures seulement avant son agonie sur la croix, il adresse une supplication au Père et dit en parlant de ses apôtres, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si le monde ne veut pas suivre les enseignements de Jésus, c'est précisément parce qu'on ne croit pas en lui à cause des divisions, à cause de la zizanie qui règne parmi ses soi-disant disciples. C'est normal, on finit par se demander si parmi tout ce fracas de doctrines différentes, Christ est vraiment prêché. Le moins que l'on puisse dire, c'est que non seulement ces divisions éloignent le monde du Seigneur, mais que de plus, elles empêchent les êtres humains de parvenir au salut. Nous avons déjà vu ensemble que les sectes ne sont nullement nécessaires à l'existence du christianisme. Pourquoi? Tout simplement parce que cette existence ne dépend que d'une chose, de la semence du royaume, qui est la parole de Dieu. Cette semence elle-même ne dépend pas du sectarisme, puisqu'elle existait bien longtemps avant que les sectes ne soient fondées. De plus, tous ces fractionnements ne sont pas nécessaires pour l'obtention de bénédictions spirituelles quelconques, car elles ne viennent que de Christ. L'apôtre Paul déclare en effet, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Pour obtenir ces bénédictions, il faut tout simplement être un simple disciple du Seigneur Jésus, c'est-à-dire un membre de l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Il faut avoir été ajouté par lui à cette famille de Dieu. Pourquoi dès lors faire partie d'une secte quelconque? Mais peut-être vous dites-vous, mais est-il possible de n'être qu'un simple chrétien, un enfant de Dieu, sans pour autant appartenir à une dénomination religieuse ou l'autre? Nous répondons et pourquoi pas. N'est-il pas suffisant d'être un chrétien? Pourquoi être plus, ce qui serait trop, ou moins, ce qui ne serait pas assez? La Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom? Le nom que nous devons porter pour glorifier Dieu est celui de chrétien. En n'étant qu'un simple chrétien, sans plus, on peut être certain de vivre selon la volonté de Dieu. L'apôtre Paul déclare lui aussi, « Quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Si quelqu'un essaie d'honorer Dieu en portant un autre nom, il agit de telle sorte que l'honneur, la gloire et l'autorité qui reviennent au Christ soient attribués à des fondateurs d'églises humaines et au nom qui s'y rattache. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, avec qui l'Éternel venait de passer une alliance, s'est vite accordé un nom qu'il allait porter au cours des siècles avec un immense respect, Israël. Il est stipulé plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament, et personne n'osa jamais le modifier. Seul l'accomplissement des temps allait changer cette appellation que le peuple élu devait honorer. Ce n'est que lors de l'établissement de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, quand le Christ viendrait et établirait son Église, qu'un nouveau nom lui serait attribué. Dieu, par le prophète Ésaïe, annonçait déjà 750 ans environ avant Jésus-Christ, « Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. » Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Ésaïe ajoute d'ailleurs encore, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Ces trois passages des Écritures nous amènent à tirer une série de conclusions logiques. Premièrement, un nom nouveau devait un jour être donné aux enfants de Dieu. Deuxièmement, il allait être éternel et ne pouvait donc être ni changé ni modifié. Troisièmement, ce nom serait attribué à tous, juifs et non-juifs. Et enfin, quatrièmement, le Seigneur lui-même le donnerait. Le seul et unique nom que Dieu révèle dans le Nouveau Testament et que son peuple doit porter est chrétien. Il tire sa racine du mot Christ qui veut dire roi, en quelque sorte élu. Le mot chrétien décrit donc quelqu'un de loin, d'élu, et qui appartient à Christ. Le second chapitre des Actes des Apôtres montre que les premiers à devenir chrétiens furent les Juifs, le jour de la Pentecôte. Ensuite, les non-Juifs ou gentils furent ajoutés à l'Église du Seigneur quand Corneille et les siens obéirent à l'Évangile. Ce n'est seulement qu'après que Juifs et gentils aient été réconciliés vis-à-vis de Dieu pour ne former qu'un seul corps, qu'ils furent ensemble appelés chrétiens pour la première fois. Oui, ce nouveau nom est chrétien. Ce nom est tellement employé pourtant qu'il est presque vide de tout sens, sauf pour une certaine catégorie de personnes qui l'ont en quelque sorte redécouvert, et pour qui il représente vraiment autre chose qu'une étiquette, qu'un monde par rapport à un autre, une civilisation, ou même presque une race d'êtres humains. Pour ces gens-là, ce mot est l'exacte représentation d'un véritable choix fait librement à un certain moment de leur existence, d'un mode de vie spirituel qui ne peut que se refléter dans l'existence matérielle. Pour eux, c'est le symbole de la paix, de la joie, de la sérénité, et surtout de la merveilleuse unité qui soude véritablement ceux qui portent ce nom en toute connaissance de cause. Pour eux, chacun de noms religieux ou des titres humains peut être discuté ou mis en cause par quelqu'un. Mais ce nom-là, chrétien, est situé tellement au-dessus des autres que personne ne peut mettre en doute ce qu'il implique de vrai, de beau, de pur, de sincère. Il est d'origine divine. Il doit être le bon. Il ne peut absolument pas être mauvais. Essayons un instant d'imaginer ce que Christ doit penser de ceux qui croient ou prétendent être chrétiens, mais qui pourtant appartiennent à telle ou telle église fondée par un être humain, portant un nom humain et qui souvent, hélas, suivent des doctrines humaines. Serait-ce faire preuve d'égocentrisme que de parler bien haut, de proclamer bien haut, mais sans orgueil mal placé, que nous ne voulons être que des chrétiens, et rien que des chrétiens? Peut-être le pensez-vous. Pourquoi alors ne pas nous questionner pour mieux vous rendre compte de ce que nous sommes, et si nous sommes ce que nous prétendons être? Étudions la Bible ensemble. Nous croyons pouvoir vous y aider en mettant gratuitement à votre disposition d'excellents cours bibliques par correspondance. Nous vous en supplions. Ne dites pas « peut-être demain » ou « je connais déjà la parole de Dieu » ou encore « oh, j'ai le temps ». Non. Prenez la plume maintenant.